Mes amis, Henri Billard, 5. La nuit, je dormis mal. À chaque instant, mes couvertures tombaient d'un côté du lit. Quand le froid qui montait le long de mes jambes m'éveillait, je tendais une main pour savoir où se trouvait le mur. À l'aube, ma fenêtre s'éclaire enfin. La table sortit doucement de l'ombre, les pieds d'abord. Le plafond devint carré. Soudain, le jour se fit. Une lumière nette entra dans la chambre, comme si les carreaux avaient été lavés. Je vis les meubles immobiles, de la cendre de papier dans la cheminée, et les planchettes du store en haut de la fenêtre. La maison resta silencieuse quelques minutes. Puis, une porte claqua. Le réveil des Lecoing sonna. Une voiture de laitier fit tinter les couvercles de ses bidons. Je me levai, car mon lit était froid, comme quand je fais la grasse matinée. Lorsqu'on a dormi entre deux draps blancs, on peut, au saut du lit, s'examiner dans une glace. Moi, le matin, avant de me regarder, je me lave. Dehors, le soleil dorait le dernier étage des maisons. Il ne piquait pas encore les yeux. L'air que je respirais me faisait frais dans les poumons, comme de la menthe. Un vent léger, sentant les lilas, leva les pans de mon pardessus qui ressembla alors à une capote de soldat. Il n'y avait ni oiseaux, ni bourgeons. Cependant, c'était le printemps. J'avais envie de marcher. D'habitude, en sortant de chez moi, je me dirige vers la rue de Seine. Ce jour-là, j'eus pour but les fortifications. Les fenêtres étaient ouvertes. Les camisoles, raidies par le vent, qui séchaient, se balançaient comme des enseignes de tôle. Par les portes entrebâillées des boutiques, on distinguait les planchers rincés, déjà secs. Dès qu'un immeuble de cet étage masquait le soleil, je doublais le pas. Les rues devenaient de plus en plus sales. Des madriers, entre lesquels les enfants jouent à la sortie de l'école, soutenaient quelques bâtisses. La terre se montrait sous le macadam cassé des trottoirs. Le plâtre noirci des façades ressemblait aux toiles de fond des photographes. Un nuage cacha le soleil. La rue tiède devint grise. Les mouches cessèrent de briller. Je me sentis triste. Tout à l'heure, j'étais parti vers l'inconnu avec l'illusion d'être un vagabond, libre et heureux. Maintenant, à cause d'un nuage, tout était fini. Je revins sur mes pas. L'après-midi, ne sachant où aller, je rôdais autour de l'hôtel du Cantal. J'avais beau raisonner, penser qu'au cas où j'eusse rencontré Billard, nous n'aurions su quoi nous dire, je ne pouvais m'éloigner de ce quartier. Peut-être que ceux qui vivent dans la pauvreté, sans amis, comprendront cette attraction. Billard, c'était si peu et, pourtant, c'était tout pour moi. Sur la place Saint-Michel, un homme coiffé d'un chapeau melon donnait des prospectus. Il m'entendit plusieurs. Personne ne s'encombre de ses papiers. Il faudrait sortir la main d'une poche, prendre le prospectus, le froisser, le jeter. Quel travail! Moi, j'ai pitié de ces distributeurs. J'accepte toujours ce qu'ils m'offrent. Je sais que ces hommes ne sont libres qu'après avoir distribué plusieurs milliers de morceaux de papier. Les gens qui passent dédaigneusement devant ces mains qui donnent au lieu de recevoir m'irritent. Il était 3 heures. C'est le moment de la journée que je déteste le plus. Aucun des petits faits de la vie quotidienne ne l'égaie. Pour chasser mon ennui, je retournais rue Gillecoeur avec l'intention de rendre visite à Billard. Je passais 4 fois devant la porte de l'hôtel, gêné de faire demi-tour. C'est ridicule d'être gêné quand on fait demi-tour dans la rue. Je n'entrais pas. Je sentais que Billard me recevrait mal. Le jour qu'il m'avait demandé les 50 francs, j'aurais dû les donner tout de suite. Certainement, il m'en voulait de l'avoir fait attendre. Pourtant, je restais là, au coin de la rue, guettant l'hôtel. Je regardais les fenêtres des maisons depuis quelques minutes, lorsque Billard, accompagné d'un homme que je ne connaissais pas, apparut sur le seuil de la porte. Je voulus courir à lui, mais comme il aurait supposé que je l'avais attendu plusieurs heures, je me retins. Jamais il n'eût voulu admettre que je venais d'arriver. Les gens ne croient pas au hasard, surtout dès que celui-ci est seul pour vous excuser. Billard avait un cache-col neuf. Ses cheveux étaient coupés dans la nuque. Les gestes qu'il faisait en parlant me semblaient ceux d'un étranger. J'ai remarqué qu'il en est toujours ainsi quand on aperçoit un ami avec un inconnu sans être vu. Je me cachais derrière une voiture. Billard n'aurait pu me reconnaître à mes pieds. Les deux hommes marchaient vite au milieu de la chaussée. Alors, une idée bête et étrange traversa mon esprit. Je m'engageai dans une rue parallèle et je pris le pas gymnastique. Lorsque j'eus parcouru une centaine de mètres, je regagnai par un passage transversal la rue que je venais de quitter. Immobile devant une boutique, j'attendis. Pour étouffer le halètement de ma poitrine, je respirais du nez. Mes chaussettes retombaient sur les tiges de mes souliers. Les deux hommes approchaient. À entendre le claquement de leurs quatre semelles, on eût dit qu'un cheval marchait sur le trottoir. Dans quelques secondes, Billard et son compagnon seraient là. Je n'osais plus regarder la vitrine du magasin, de peur que mes yeux ne rencontrassent ceux de Billard dans la glace. Un instant, j'eus l'intention de me retourner avec un air distrait, mais je craignis que cet air distrait ne parût pas sincère. D'ailleurs, Billard me verrait. La rue était étroite. Il s'imaginerait que je flânais et il me parlerait le premier. C'était ce que je désirais. Malheureusement, les deux hommes me dépassèrent sans m'adresser la parole. La certitude d'avoir été vu m'empêcha de recommencer cette comédie. Vraiment, je n'ai pas de chance. Personne ne s'intéresse à moi. On me considère comme un fou. Pourtant, je suis bon, je suis généreux. Henri Billard était un goujat. Jamais il ne me rendrait les 50 francs. C'est toujours ainsi que le monde vous récompense. J'étais triste et furieux. L'impression que ma vie tout entière s'écoulerait dans la solitude et la pauvreté augmentait mon désespoir. Il était à peine 4 heures. Il fallait que j'attendisse au moins 2 heures avant d'aller au restaurant. Des nuages transparents couraient sous d'autres nuages noirs. Les rues perdaient l'atmosphère fatigante de l'après-midi, sans doute à cause des journaux du soir. J'ai observé que ces journaux réveillent les passants, même ceux qui ne les achètent pas. Un journal est fait pour être lu le matin. Quand il paraît le soir, on a la sensation qu'une raison importante l'y oblige. Billard m'avait réellement froissé. Pourtant, je ne pouvais m'éloigner de son quartier. Je marchais vite dans les rues où je pensais avoir été remarqué, lentement, dans celles où j'allais pour la première fois. Une femme qui boitait me fit songer à Nina. Il était impossible que celle-ci aimât Billard. Elle était trop jeune. À 18 ans, on ne cohabite pas avec un homme de 40 ans, à moins d'être contraint de le faire. Petit à petit, la pensée d'aller chez Nina s'infiltra dans mon cerveau. Je m'en sentais le courage. Quand je suis seul avec une femme, ma timidité ne me gêne plus. J'ai l'impression que celle-ci me rend sympathique. Oui, je saurais parler à cette jeune fille. Je lui dirais du mal de Billard. Elle me comprendra. Elle le quittera. Et qui sait, peut-être m'aimera-t-elle ? À la vue de la boule blanche de l'hôtel du Cantal, j'eus la sensation que, pour ne pas m'éveiller dans un beau rêve, je me forçais à dormir. Je pénétrai dans l'hôtel en essayant de me convaincre que je venais directement de chez moi, que j'étais en retard et qu'après tout, ma visite n'avait rien de bizarre. Je montai doucement l'escalier pour ne pas m'essouffler. Mes mains, mouillées de sueur, sifflaient sur la rampe. Une bonne, les cheveux enveloppés dans une serviette, balayait un corridor obscur. Par une fenêtre ouverte, je vis une cour et le dos d'une maison avec des garde-manger suspendus comme des cages à oiseaux. Au milieu du dernier étage, je m'arrêtai. Une porte se serait ouverte, j'eusse continué mon chemin. Je n'aurais pas eu l'air louche des gens immobiles sur un palier. J'étais ému. Mes oreilles bourdonnaient comme quand on écoute la mer dans un coquillage. Ma chemise était mouillée sous les bras. Après avoir gravi les dernières marches, je frappai.
« Qui est là ?»«
Bâton, bâton. »« Ah, bien. Attendez, je fais ma toilette. » Planté devant la porte comme un employé du gaz, j'écoutais les moindres bruits, craignant d'entendre la voix de billard ou celle d'un inconnu. Il y avait de la lumière dans le trou de la serrure. Un autre que moi eût regardé. Je me retins. Il est vrai que la honte m'aurait tué si on m'avait surpris, accroupi devant la porte. Nina apparut enfin. Lavée, les cheveux mouillés aux tempes, les sourcils collés, plus noirs, les lèvres fraîches, sans rides, elle souriait. Elle avait de belles dents. On ne voyait pas les gencives. « Entrez, monsieur Bâton. »«
Oh, je vous dérange. »«
Non. » Elle aurait dû dire plusieurs fois « non ». Elle marcha devant moi, pas gênée de boiter. Quand elle s'arrêta, son corps redevint vertical. « Est-ce que monsieur Billard est là ?»«
Il vient de sortir. »«
Oh, c'est ennuyeux. »«
Attendez-le donc. »
Je m'installai au même endroit que la veille. C'est une de mes habitudes. Je m'assois toujours à la place que j'ai choisie la première fois. La chambre n'avait plus cette propreté que donne, à la lumière d'une lampe, un plancher ciré, une armoire à glace et une cheminée de marbre noir. Des plaques de bois luisants se détachaient des meubles. Le papier tenture semblait avoir séché au soleil. L'air sentait la pâte dentifrice. Sur les rideaux, il y avait des fleurs brodées à la machine. Les roulettes du lit avaient rayé le parquet. «
Ne vous retournez pas, monsieur Bâton. Il faut que je finisse de m'habiller. »
Ce mot « habiller » me donna envie de prendre la jeune fille par la taille, sans doute parce qu'il me faisait penser à « déshabiller ». Je craignais que Billard n'arrivât. Qu'eût-il dit en me trouvant là, cependant que sa maîtresse se vêtait ?
Il aurait été jaloux.
Je perçus le petit cri des pressions, le clapotement d'une chemise propre que l'on déploie et, de temps en temps, le craquement d'une jointure d'os. Mes yeux, à force de loucher vers la jeune fille, me firent mal. Quand elle eut terminé sa toilette, elle vint s'asseoir en face de moi. Sans que cela fût nécessaire, je me retournai. C'était un mouvement instinctif. Je vis un pantalon de femme dont les deux jambes se touchaient en un seul point et, à terre, des empreintes de pieds avec les cinq doigts.
« Comment allez-vous, monsieur Bâton ?»«
Assez bien. Et vous ?» Elle ne répondit pas. Sans se soucier de moi, elle limait ses ongles. Comme je m'imaginais qu'une fois ses ongles limés, elle s'intéresserait à moi, je comptais les doigts qui n'avaient pas encore été soignés. Elle posa sa lime blanchie.
« Vous devez vous ennuyer, madame, quand Henri est absent. »
« Oui, assez. »
Elle baissa sa jupe pour cacher sa jambe trop courte.
« Vous devez être heureuse avec lui. »
« Oui. »
Les réponses de Nina me paraissant peu enthousiastes, je murmurai. « Je vous comprends. » Elle m'examina. Ses mains cessèrent de bouger.
« Je vous comprends, » répétai-je. « Il vous ennuie. »
« Qui ?»«
Billard. »
Il y eut un silence. Elle était immobile. Seuls ses yeux bougeaient, tous les deux en même temps. Maintenant, j'avais la certitude qu'elle n'aimait pas son amant. Elle était trop confuse quand je parlais de lui. Elle ne le défendait pas. Je me levai. Pour le premier entretien, il valait mieux ne pas brusquer les choses. En me reconduisant, elle me tendit la main avec franchise, sans plier le coude.
comme nous étions seuls, je gardais sa main dans la mienne. Je me trouvais sur le palier. Elle était dans l'embrasure de la porte. Elle regardait mes oreilles pour savoir si je rougissais. « Au revoir, mademoiselle. »«
Au revoir, monsieur. »
Il me restait une seconde pour fixer un rendez-vous avant que la porte se fermât.
« Demain à 3 heures, » balbutiai-je.
Elle ne répondit pas. Sans regarder les marches, un peu comme une fée, je dévalai l'escalier.